Bonjour, frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très joyeuse fête des pains sans levain. C'est difficile de croire que nous y sommes déjà, le temps passe vite. Malgré les restrictions du COVID, il semble que le temps s'accélère avec chaque année qui passe. Mais j'espère que cette fête se passe bien pour vous. Si tout va comme prévu, moi je serai ce premier jour en Martinique et pour le dernier jour en Suisse, j'enregistre ce serment à l'avance avant de partir pour ce voyage. Nous sommes aujourd'hui au début de la fête des pains sans levain. Et nous savons que pendant le temps de cette semaine, des pains sans levain, le levain prend une signification symbolique de péché, de transgression de la loi, de l'injustice. Mais le levain est utilisé de plusieurs autres manières, dans la Bible également, particulièrement dans le Nouveau Testament. Et je voudrais nous faire pencher aujourd'hui sur d'autres emplois du mot levain, avec d'autres significations que nous devrions comprendre. Pour cela, je voudrais commencer dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, Jésus se sert du levain ici pour parler non pas uniquement de la fête des pains sans levain, mais d'autre chose. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » En d'autres mots, il y avait des signes qui entouraient Jésus tout le temps, qui indiquaient qu'il était le Messie. Mais il refusait de le voir, il voulait autre chose. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Il y a de l'humour dans la Bible. En voici un endroit, Jésus veut leur enseigner une leçon spirituelle profonde et eux, ils pensent que Jésus les gronde parce qu'ils ont oublié des sandwichs. Ils n'ont rien compris. Verset 8, « Jésus l'ayant su, vous savez à quoi il pensait, il dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ?» Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Pas une question de pain, le pain n'est pas le problème. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens est comparé à du levain ici. Il a dit, gardez-vous de cela. Gardez-vous de leurs enseignements. Pourquoi cet avertissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelles sont les leçons pour nous aujourd'hui concernant ce pain des pharisiens et des sadducéens? Est-ce qu'il y a encore des applications pour nous aujourd'hui? C'est ce que nous allons étudier le temps de ce sermon. D'abord, nous devons comprendre un peu qui étaient les pharisiens et qui étaient les sadducéens et quels étaient leurs enseignements, qu'est-ce qu'ils enseignaient. Les pharisiens ont commencé leur existence après l'époque d'Esdras. C'est Esdras qui a un peu fondé ce mouvement en quelque sorte. Les sadducéens étaient descendants d'Aaron, donc sacrificateurs, et on peut dire des nobles. Ils croyaient que toutes les bénédictions promises par Dieu n'étaient que physiques et nationales. Ils ne croyaient pas qu'il y ait de résurrection des morts, pas de vie éternelle. Ils niaient même l'existence des anges. Donc ce sont deux mouvements ou deux groupes bien différents dans leurs enseignements. Allons un peu plus profondément. Je prends un article du Dictionnaire biblique pour tous à propos des pharisiens. Voilà ce qu'ils écrivent. l'œuvre d'Esdras, qui s'était attaché à maîtriser le texte et l'enseignement de la loi, a été poursuivie par ceux qui se sont fait connaître sous le nom de scribes. Du cercle plus large de leurs partisans, les Hassidéens, les Hassidim, on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les fidèles de Dieu, sortis du groupe minoritaire des pharisiens, qui ne partageaient pas les attitudes religieuses et politiques de la majorité au cours du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Alexandra Salomé les fit accéder au cercle du pouvoir et dès lors y constituèrent un groupe dominant du Sanhédrin. Ils ont toujours été un groupe minoritaire et n'étaient qu'environ 6000 hommes au temps d'Hérode le Grand. Ils insistaient sur l'accomplissement de la loi par chacun, alors que les Sadducéens mettaient l'accent sur le culte au temple et sur la résurrection que les Sadducéens niaient. La loi pouvait être adaptée si les circonstances changeaient, mais restait néanmoins intégralement obligatoire pour tous. La loi contenait 613 commandements, 248 positifs, 365 négatifs, qui étaient renforcés par des commandements supplémentaires afin que personne ne viole les principes. Il y avait, par exemple, 39 catégories d'activités interdites le jour du sabbat. Les pharisiens étaient convaincus que leur tradition, il est souvent question dans les explications de Jésus, leur tradition, émanation d'une application correcte de la loi, venait de Moïse. Ils exigeaient rigoureusement la dîme et se situaient, d'un point de vue éthique, sans doute plus haut que la plupart des autres. Leur condamnation par Jésus, qui leur reprochait leur incrédulité, est à considérer sous cet angle. Pardon. Je prends une autre citation maintenant, cette fois-ci du nouveau commentaire biblique à propos des pharisiens. Nous voulons bien comprendre quels étaient leurs enseignements. Celui-ci ramenait la religion à l'observation de la loi et enseignait que Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui se conforment à ses ordonnances. La piété devint ainsi formaliste, la disposition du cœur ayant moins d'importance que l'acte extérieur. L'interprétation de la loi et son application à tous les détails de la vie quotidienne prirent une grande importance. Les commentaires des docteurs juifs finirent par former un véritable code faisant autorité. Joseph, lui-même pharisien, dit que les scribes ne se contentent pas d'interpréter la loi plus subtilement que les autres sectes, mais impose au peuple une masse de préceptes tirés de la tradition et ne figurant pas dans la loi de Moïse. Jésus déclara que ces interprétations rabbiniques traditionnelles n'avaient rien d'obligatoire. Les pharisiens, au début, exposés à la persécution, se distinguaient par leur droiture et leur courage. Ils étaient l'élite de la nation. Le niveau moral et spirituel de leurs successeurs baissa. Les points faibles de leur système devinrent prépondérants et leur attirèrent des critiques acerbes. Jean-Baptiste appelait les pharisiens et les sadducéens une race de vipères. Jésus dénonça leur orgueil, leur hypocrisie, leur négligence des éléments essentiels de la loi, alors qu'ils attachaient la plus grande importance aux plus petits détails. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, ils ont essayé, les pharisiens, de mettre une espèce de clôture autour de la loi en imposant toutes sortes d'autres choses en plus pour éviter qu'on ne transgresse un commandement. Et ça penchait vers l'hypocrisie. L'acte extérieur comptait plus que l'attitude avec laquelle on accomplissait ce que l'on devait accomplir. Maintenant, nouveau commentaire biblique, encore une fois, à propos des Sadducéens. Qui étaient-ils? Les Sadducéens, comparativement peu nombreux, étaient instruits et pour la plupart riches, influents, détenteurs de fonctions publiques. On pense généralement que son origine, le nom remonte à un autre Tsadok, dans 2 Samuel 8, 17, le souverain sacrificateur sous David. La souveraine sacrificature resta l'apanage de la famille jusqu'à l'époque troublée des Maccabées. Ses descendants et ses partisans s'appelèrent Sadducéens, autrement dit Sadducéens. Contrairement aux pharisiens, qui accordaient une grande importance à la tradition des anciens, les Sadducéens ne se fondaient que sur les doctrines figurant dans le texte sacré. Pour eux, seule la loi écrite était déterminante. Mais ils prétendaient avoir le droit d'interpréter à leur guise. Ils demeuraient attachés à la lettre de l'Écriture, même s'il en résultait une grande sévérité dans l'exercice de la justice. Contrairement aux pharisiens, les Sadducéens niaient la résurrection et la rétribution dans l'au-delà, l'existence des anges et des démons. Ils enseignaient que nous récoltons les conséquences directes de nos actes bons ou mauvais et que Dieu ne s'occupe pas autrement de notre conduite. Il n'y a pas vraiment un au-delà. Il ne faut rien craindre. Leur négation de la résurrection s'appuyait, disait-il, sur le fait que la loi mosaïque ne contient pas de texte explicite relatif à ces doctrines. Les Sadducéens ne tenaient aucun compte de la croyance des patriarches dans l'au-delà, au séjour des morts. Cette croyance contenait pourtant en germe les révélations bibliques subséquentes de la résurrection du corps et du jugement futur. En niant l'existence des anges et des démons, les Sadducéens s'opposaient aux théories compliquées du judaïsme de leur époque. Mais passant à l'autre extrême, ils négligeaient à leur tour l'enseignement de la loi. Voilà qui étaient les Sadducéens. Maintenant, pourquoi est-ce que Christ aurait averti contre ces enseignements? Comment est-ce que nous devons comprendre cela? Construire une clôture autour de la loi a donné lieu à une grande quantité de traditions et de cérémonies qui n'étaient pas nécessaires, mais qui pour eux avaient force de loi. Il fallait les respecter. Prenons un exemple dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, à partir du verset 1. Marc chapitre 7, verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec les mains impures, symboliquement impures, c'est-à-dire non lavées, cérémoniellement. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens, les scribes, lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous ajoutez ces coutumes physiques, ces gestes qu'il faut répéter, ces cérémonies, mais en fait, dans votre cœur, c'est autre chose. Vous n'êtes pas fidèle à Dieu dans vos pensées et dans vos esprits. Ils se lavaient les mains non pas pour avoir les mains propres, comme nous le ferions avec un peu de savon aujourd'hui, mais pour respecter la cérémonie et la tradition. Et quand nous descendons au verset 14, « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme, rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » question d'être souillés cérémoniellement, traditionnellement. Ils ont mis l'accent sur le physique, les pharisiens, non pas ce qui était spirituel. La loi est spirituelle et on ne peut pas obéir à la loi de Dieu correctement si on ne le fait pas aussi dans son esprit et dans son cœur. Ça, c'est un problème. Parce qu'il finissait, par toutes ses traditions, à violer la loi spirituelle, l'aspect spirituel de la loi, afin de se fixer sur leurs coutumes physiques. Prenons Matthieu chapitre 5. On va aller un peu plus loin. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 1. Pardon, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 1. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Encore une fois, un peu d'humour, il me semble. Si vous essayez d'imaginer la scène, on ne peut s'empêcher que de sourire, au moins, sinon rire. Quelqu'un qui a une paille, quelqu'un qui a une poutre dans son œil. Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est exactement ce que faisaient les pharisiens. Ils avaient des poutres dans leurs yeux spirituellement et ils voulaient critiquer et juger les autres sur des affaires beaucoup, beaucoup moins graves. Beaucoup moins graves. Ils se permettaient même de corriger Jésus pour certaines choses qu'il faisait ou qu'il permettait à ses disciples de faire. Et en plus, ils ajoutaient même de mauvaises choses à la loi. Ils ajoutaient des règles physiques qui violait l'aspect spirituel de la loi de Dieu. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, verset 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. Matthieu chapitre 23 est une longue condamnation des fautes et des péchés des pharisiens. Verset 13 de Matthieu 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Vous êtes des obstacles spirituels à ceux que vous prétendez enseigner. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Ils créaient des règles qui leur permettaient de s'enrichir, de prendre ce qui ne devait pas être à eux, mais publiquement, ils avaient cette apparence externe, extérieure, pour impressionner le monde. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Quel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ?» Encore une fois, c'est ces règlements purement basés sur des réflexions humaines. « Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Il faut verser la dîme. Il faut même calculer la dîme sur des petites choses. Jésus ne dit pas le contraire. Parfois, on essaie de se servir de ce passage pour dire que Jésus condamnait le versement de la dîme. Malheur à vous parce que vous payez la dîme. Mais il faut lire jusqu'au bout. Et non, il faut. Il a confirmé, il faut payer la dîme. Mais il y a plus important que la dîme sur quelques herbes. La justice, la miséricorde et la fidélité. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Encore une fois, un peu d'humour dans l'enseignement de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. L'externe est propre, l'extérieur est propre, l'intérieur est souillé et sale. Pharisiens aveugles, verset 26, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns et battrez de verge les autres dans les synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le Juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis, en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ajoutaient de mauvais éléments à la loi. Ils ajoutaient à la loi de Dieu des choses qu'ils n'avaient pas le droit d'ajouter. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Et en plus, ils étaient hypocrites. Ils disaient une chose et ils faisaient une autre. L'hypocrisie, répétée plusieurs fois ici dans cette sévère correction de la part de Jésus, l'hypocrisie est un piège dans lequel il est facile pour l'être humain de tomber. Ça, c'est une leçon importante pour nous qui sort de la fête des pains sans levain et l'enseignement des pharisiens. L'hypocrisie, faire du semblant, montrer une face au monde et être très différent à l'intérieur. En 1958, le cinéma Playhouse à Washington, D.C. a parrainé une série publicitaire appelée « La marque du faucon ». Pendant 2 semaines, ça durait. Le film couleur de 80 minutes était produit pour une sortie dans les salles commerciales, représentant un effort de l'Église presbytérienne aux États-Unis de susciter un intérêt public pour des missions chrétiennes. L'actrice, très connue à l'époque, Eartha Kitt, a joué un rôle principal en tant que bon membre de l'Église et missionnaire. 3 mois plus tard, Madame Kitt était de retour sur l'écran, mais cette fois-ci, elle jouait dans un autre film et elle jouait une prostituée. Bon, on s'y attend pour les acteurs. On sait qu'ils ne jouent que des rôles. Ce n'est pas vraiment eux. Nous ne voyons pas la réalité de ces personnes à l'écran. Mais d'un autre côté, tout le monde, par moment, joue un rôle, met un masque, cache ce qui se passe véritablement dans son cœur ou dans son esprit, essaie de présenter un beau dehors quand ce qui est dedans n'est pas du tout bien. En fait, vous le savez probablement, le mot qui est traduit par « hypocrite », le mot dans le grec décrit un acteur qui porte un masque. Ça, c'est un hypocrite, quelqu'un qui portait un masque. Au moment de la fête des pains sans levain, c'est un moment propice de nous poser la question personnellement, quel masque suis-je tenté de mettre? Est-ce que j'ai un masque habituel pour un aspect de ma vie ou pour un autre? C'est une question que nous devons nous poser. Parce que la Bible indique qu'il est même possible pour nous de nous masquer de nous-mêmes, qu'un masque s'installe à notre insu et que nous nous cachions de nous-mêmes des choses que nous préférons ne pas voir. Et si on les voyait, on serait obligé de faire quelque chose. Revenons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Nous avons ici des personnes qui se sont masquées à eux-mêmes. Et ils n'ont pas vu la réalité de ce qui se passait. Il y avait des choses qui se cachaient. Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront, Jésus le sait à l'avance, c'est la nature humaine à l'œuvre. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je pense que ces personnes-là sont sincères, mais regardez tout le bien que j'ai fait. Et ils se cachaient des choses, ils étaient aveugles au fait qu'ils commettaient l'iniquité, ou ils se permettaient juste un petit peu d'iniquité, ça ou là. Je ne suis qu'humain après tout, c'est pas possible la perfection. C'est vrai que nous trébuchons tous, mais on peut pas accepter que ce soit comme ça, et avoir une domaine que nous ne corrigeons pas quand nous voyons la nécessité de le faire. Le fait de jouer à l'hypocrite, c'est facile. Les apparences peuvent tromper. Les apparences peuvent tromper. Ça me rappelle une autre histoire que j'ai lue il n'y a pas trop longtemps. La plus grande actrice polonaise de tout temps était une certaine Elena Modjeska. Elle a vécu entre 1840 et 1909. Elle jouait du Shakespeare en Pologne, et puis finalement, elle a émigré aux États-Unis. Apparemment, peu de temps après son arrivée aux États-Unis, lors d'une soirée, la compagnie admirative la pressa de réciter une pièce de théâtre. Elle a d'abord refusé, au motif que la mémoire ne lui servit pas, qu'il fallait les décors, des lumières, mais les invités ont tellement insisté qu'elle a finalement acquiescé. Elle a annoncé qu'elle réciterait un morceau dans sa langue maternelle. Les auditeurs l'écoutaient fascinés. Certains qui étaient là ont même été émus jusqu'aux larmes. Et quand elle a terminé, on lui demanda le nom de cette histoire si touchante qu'elle venait de raconter. Elle a souri et l'a dit, « J'ai compté en polonais jusqu'à 100. » Mais l'émotion, la présentation, elle avait trompé son auditoire. Les idées, le drame, l'émotion, tout cela peut donner de fausses impressions. Ça peut induire en erreur. Ça peut le faire aux autres. Nous pouvons même le faire envers nous-mêmes. Être impressionné par notre manière de nous voir ou des histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. Là, nous devons faire très attention. Prenons Colossiens chapitre 2 maintenant, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Une nouvelle Bible, je ne trouve pas tout. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » L'ajout de certaines choses à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu. Descendons au verset 18. « Que personne... sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Parfois, on essaie de faire passer tout cela comme une description de la loi de Dieu, mais quand on lit jusqu'au bout du chapitre, on voit que c'est pas du tout le cas. C'est bien le contraire. Ce sont des choses qu'on veut ajouter à la loi de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. On ne doit pas interdire des choses que Dieu a permis. Et on ne doit pas permettre des choses que Dieu a interdites non plus. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Ils interdisaient des choses que Dieu avait permis, et parfois ils permettaient des choses que Dieu avait interdites. Ça, c'est l'enseignement, cette hypocrisie dont nous devons nous méfier. Dans Luc chapitre 13, poursuivons. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré ses guérisons un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »« Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ça, c'était l'attitude des pharisiens. Juger les autres, condamner les autres, même les autres qui, en fait, accomplissaient la volonté de Dieu. Très rapide à juger les autres. Peu rapide à se juger eux-mêmes. En fait, pas du tout. Donc, voilà un levain d'enseignement, un levain doctrinal. Ajouter des choses, ajouter des traditions à la loi de Dieu. Et puis, trouver des excuses et des raisonnements pour permettre des choses que Dieu interdit, que Dieu dit ne faites pas. Les pharisiens faisaient les deux. Ils faisaient les deux. Ça, c'était leur levain d'enseignement. Et nous avons encore ce genre de problème dans le monde aujourd'hui. Nous le connaissons spirituellement, chez nous, chacun. Si nous regardons bien, nous allons trouver des traces. Mais le christianisme traditionnel dans le monde se trompe complètement et change ce qui est écrit dans la Bible. Il change la manière que Dieu explique pour recevoir le salut. Il se trompe sur la récompense des chrétiens. Il se trompe sur comment on peut faire pour recevoir la récompense des chrétiens. Il se trompe sur ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que l'immortalité? Qu'est-ce que le sabbat? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il croit que c'est dans votre cœur, etc., etc., etc. Il se trompe sur le retour de Christ. Pourtant, toutes ces choses sont clairement expliquées dans la Bible. Ils se trompent sur le jour qu'on doit adorer Dieu, par un raisonnement à eux-mêmes. Non, pas le sabbat, non, parce que maintenant le Seigneur est levé, nous ne voulons pas faire comme des Juifs. Et voilà, on a une explication que pratiquement le monde chrétien, au monde entier, suive ces faux raisonnements. Nous le connaissons autour de nous, dans le christianisme au sens large. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, parfois nous devons dire, oui, ça m'est arrivé, ça m'arrive. Je ne dois pas être hypocrite. Je dois voir la loi exactement comme Dieu le dit et chercher à l'appliquer comme il le dit. Rien ajouter, rien retrancher pour être vrai devant Dieu. Regardons un autre passage qui mentionne quelque chose de similaire, de lié à cela, mais pas exactement la même chose. Marc chapitre 8, verset 15. Marc chapitre 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Maintenant, il y a un autre levain qui est présenté ici, le levain d'Hérode. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le levain d'Hérode? Eh bien, si nous revenons quelques pages en arrière, à Marc chapitre 3, nous allons rencontrer encore un autre groupe de Juifs qui existait au premier siècle. Marc chapitre 3, verset 6. Les pharisiens sortirent, et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens. Les Hérodiens, sur les moyens de le faire périr. Qui étaient les Hérodiens? Peut-être que vous n'avez jamais étudié cette question, ou même n'avez pas en mémoire qu'il existait un tel groupe. Alors, nouveau commentaire biblique, encore une fois, à propos des Hérodiens. Du parti d'Hérode. Diverses hypothèses ont été émises sur les Hérodiens. Les découvertes actuelles semblent prouver qu'ils ne formaient ni une secte religieuse, ni une partie politique. En Galilée, ils se joignirent aux pharisiens pour comploter de faire mourir, nous venons de le lire ici. Il ne paraît pas probable qu'ils aient appartenu à la domesticité d'Hérode, car les pharisiens ne se seraient pas associés à des gens remplissant des emplois subalternes à la cour. À Jérusalem également, pharisiens et hérodiens s'unirent pour tendre un piège à Jésus à propos du tribut dû à César, dans Matthieu chapitre 22, verset 16. Cet incident permet de supposer que les hérodiens n'étaient pas officiers de justice. S'ils eussent été, les pharisiens se seraient servis d'eux pour chercher à intimider Jésus, plutôt que pour lui tendre un piège. En Orient, les percepteurs n'ont pas coutume de questionner les inférieurs sur la légalité des impôts. Les Hérodiens étaient probablement des Juifs nantis de postes importants et favorables aux Hérodes, donc aussi aux Romains qui les soutenaient. Ils étaient partisans des Hérodes en un pays où la majorité était irrévocablement opposée à ce régime. Leur levain était de se faire attirer par le monde. Ils coopéraient avec Hérode, les Hérodes, la famille. Ils coopéraient avec les Romains, ce que, en fait, surtout avec Hérode, ils n'auraient pas dû faire. Mais ils se laissaient attirer par l'argent. Ils se laissaient tenter. Et ça, c'est le levain d'Hérode. Le levain des Hérodiens, c'est de se laisser amadouer par ce qui est matériel, par ce que le monde peut nous offrir d'illicite. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à ce sujet, c'est un passage important. 1 Jean chapitre 2, verset 15, pour comprendre ce qui se passe dans le monde et l'attirance que le monde peut avoir sur nous. 1 Jean chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne pas se laisser attirer d'une mauvaise manière par le matériel. Maintenant, Dieu nous donne... Dieu nous bénit parfois matériellement. Nous pouvons recevoir de bonnes choses de ses mains. C'est pas le fait d'avoir des biens matériaux, c'est pas mauvais, mais c'est le fait de les rechercher, de les aimer plus que l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Les choses du monde. Le monde passe. Quels seraient quelques exemples pour nous aujourd'hui du levain d'Hérode ou des Hérodes? D'aller au-delà de ce que la Bible dit, de juger les autres, d'insister sur certaines conduites sur les autres, des comparaisons, la déformation des Écritures, choisir les passages que nous aimons, sans prendre le temps de lire vraiment tout ce que Dieu nous dit et tout ce que Dieu nous demande. L'hypocrisie est une partie du levain de ces groupes-là que nous voyons. Et puis de se laisser attirer par les affaires du monde au point où on fait des compromis avec la loi de Dieu, la voix de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce que la Bible dit à propos du levain des pharisiens, des sadducéens et des hérodes. Gardons-nous avec soin de ces levains. Joyeuse fête des pains sans levain.